Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver et j'espère que vous avez profité des grands ponts pour vous reposer. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Moll, qui a été pêcheur, qui est pêcheur en retraite et qui est président de l'association ASPRI. Bonjour Jean-Pierre Moll.
Bonjour madame.
ASPRI est une association de protection contre les risques d'inondation, d'où son nom. Et au fil du temps, l'association va travailler également à la survie des étangs et du trait de côte. Alors malheureusement, nous sommes en radio, une carte de Palavas n'est pas affichée sous nos yeux. Et pour suivre ce que vous allez nous décrire, grossièrement, je vais vous dire que Palavas est étendue à droite comme à gauche sur une langue de sable, que les habitations de Palavas sont d'un côté face à la mer, de l'autre côté, elles regardent vers deux étangs, le Prévost et le Grec, que souvent, abusivement d'ailleurs, on dénomme le Méjean, et que ces deux étangs sont séparés par une route, le Lèze et un canal. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette situation géographique ?
Non, simplement qu'il y a quatre étangs sur le secteur de Palavas, dont le plus près de la mer, d'un côté, comme vous dites, c'est le Prévost, et au-dessus, c'est l'étang de l'Ornel. Et le plus près de l'autre côté, c'est l'étang du Grec, qui est le plus près de la mer, et au-dessus, effectivement, c'est le Méjean. Et il y a le canal du Ronacette qui passe au milieu.
Alors, avant d'en parler un petit peu plus longuement, parce qu'on va revenir, bien sûr, sur le fonctionnement de ces étangs, de la mer, du canal, etc. Donc, on va parler un tout petit peu de vous pendant quelques minutes, simplement. Donc, vous étiez pêcheur d'étangs, et donc c'est un écosystème que vous connaissez bien, cet écosystème des étangs. Alors, racontez-nous un peu ce qu'était cette pêche au temps de l'abondance, au temps où les étangs fonctionnaient bien.
Moi, j'ai commencé la pêche en 1968. Donc, l'abondance, c'était avant, mais encore, il y avait de beaux restes. Disons que les étangs, ils avaient de beaux restes. Et que depuis, ça s'est encore particulièrement affaibli.
Alors, qu'est-ce qu'on y pêchait ?
Ben, beaucoup des anguilles, hein, essentiellement des anguilles, mais pas que. Il y avait du poisson. Il y avait du geôle, le goujon, il y avait des petites soles, des petites dorades. Hein. Il y avait du bar, du loup, du muge, du mulet, beaucoup de mulets, et des crabes, bien entendu, mais bon, il y avait toute une pléiade de poissons, quoi.
Bon, alors ça, c'était une situation de la pêche qui s'est un peu dégradée entre-temps, et on aura l'occasion certainement d'en reparler avec des pêcheurs de Palavas. Aujourd'hui, donc, on a bien moins de pêcheurs à Palavas. Avant, il y en avait 200 à peu près.
Oui, à l'époque, dans les années 40, il y avait 200 pêcheurs. Et aujourd'hui, il en reste une 50, péniblement.
Une cinquantaine à peu
près. Sur la prédomie de Palavas, c'est une cinquantaine. Ça ne comprend plus que Palavas. Il y a des communes avoisinantes.
Alors, donc, en 2014, il y a une très, très grosse inondation qui vient couper la route, justement la fameuse route entre les étangs et qui conduit de Montpellier à Palavas. Et alors, vous découvrez que ce n'est pas le Lèze qui déborde, mais que c'est l'étang du Prévost, et que c'est assez inhabituel, finalement.
C'est pas que l'étang du Prévost, c'est tous les étangs qui ont débordé. Parce qu'en définitive, les aménagements qui ont été faits, il y a eu une première phase d'aménagement qui a été faite sur le Lèze, donc ça a été l'endigage des berges du Lèze pour protéger l'Atte, ce qui est tout à fait logique.
Alors là, c'est en amont, bien sûr.
C'est en amont, puisque c'est tout à fait... Avant, ça s'est allé dans les champs, vous comprenez. Il y avait des centaines et des milliers d'hectares de champs dans lesquels les crues s'étalaient quand le Lèze débordait. Et ça a été construit, bien évidemment, puisque ça se construit partout. Et donc, à un moment donné, il faut bien protéger les populations.
Donc, c'est surtout Montpellier qui a grossi.
Et ses environs, Montpellier et ses environs. Donc, ils ont monté les berges du Lèze. En montant les berges du Lèze, forcément, ça s'étale plus dans les plaines, hein, puisqu'elles sont construites, ce qui, quelque part, est normal. Et après, ils ont fait des déversoirs. Et donc, pour déconcentrer la crue du Lèze, ça va dans les étangs. Donc, c'est les étangs qui se remplissent beaucoup plus rapidement qu'auparavant.
Alors, pourtant, on les avait endigués, ces fleuves, justement pour éviter les inondations. Parce qu'auparavant, par exemple, l'Aisne, il s'étendait, comme vous venez de le raconter, surtout dans la plaine de Latte.
Voilà, voilà, mais ailleurs aussi. Mais voilà, c'est seulement comme c'est construit. Il faut bien protéger les habitations et ils ont monté les digues. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils arrivent au niveau des étangs, ils font des déversoirs, ils font des bras qui se déversent dans les étangs. Donc, on déconcentre la crue du Lesse. Quand on s'inonde plus par le Lesse qui déborde, mais par les étangs qui débordent. Parce qu'en fait, on n'a pas réglé le problème, on n'a fait que le déplacer.
C'est-à-dire qu'il arrive trop vite?
Ben, il arrive trop vite. Vous savez, on a 64 hectares par an de moyenne. D'urbanisation à la fois sur le Lesse, en comptant le Lesse et la Mosson, sur les deux rivières. On a, sur 11 ans, on est arrivé à une moyenne de 62 hectares par an. Donc ça fait 750 hectares sur 11 ans qui ont été urbanisés. Donc ça s'urbanise à grande vitesse. Et après, il faut protéger et donc on fait des digues. Et quand on arrive au niveau des étangs, on fait des déversoirs et ça inonde c'est les étangs qui débordent. Ce n'est plus la rivière, c'est les étangs.
Mais alors,
on fait comme si l'estuaire n'était pas construit.
Alors, ça signifie quand même, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la région de Montpellier, que ces fleuves descendaient de la montagne et ils étaient chargés en sédiments. Alors d'abord, ils ne coulaient pas de manière régulière.
Non, non, non. Ça, c'est quand on parle quand il y a des crues. Après, le Lesse a un débit très faible. Mais il peut monter jusqu'à 900 mètres cubes au seconde, s'il y a une crue importante. Voilà, tout le problème, il est là. Donc, en définitive, nous, quand on demande des portes sur les gros, c'est pour retarder le remplissage des étangs par la mer. Et pour quand la
Mais
crue...
Mais ça, on va en parler plus longuement après. Comprenons déjà ce système. Donc, on a un fleuve qui descend très fort. Et ce fleuve, comme tous les fleuves méditerranéens, finalement, il est à sec pendant une grande partie
tout
de l'année.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est au moment... qu'est-ce que c'est qu'un événement cévenol, alors?
C'est quand il y a un été qui est très chaud. Bon, il y a beaucoup d'évaporation. Et après, on a une tempête à la mer. Quand on arrive à l'automne, il y a des tempêtes à la mer. Donc, ça fait des nuages. Ça fait des nuages qui vont heurter le Piémont, dans les Cévennes. Et après, c'est la crue qui descend. Seulement, entre-temps, les étangs ont été remplis par la mer. C'est là qu'il faudrait retarder le remplissage des étangs par la mer.
Bien sûr, et ça, on va en parler. Alors, cette année, on n'a pas eu la crue cévenole.
Non, 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 pas du tout. Pas du tout.
C'était le phénomène
C'est pas systématiquement chaque année. Mais il peut y avoir des années où il y en a deux, trois. Il y a eu des années à l'époque où il y en a eu sept.
Ah oui, quand même.
Ça a été les plus fortes.
Alors, c'est ce qui explique peut-être qu'on endigue ces fleuves, mais on ne les endigue pas complètement, quoi.
Si, ils sont endigués tout le long par rapport aux plaines qu'on veut protéger parce qu'elles sont urbanisées. Mais c'est quand on arrive au niveau des étangs, qu'on arrive, si vous voulez, au rond-point du Pont Vert, donc Villeneuve-les-Maguelones, là, quand on arrive là, eh bien là, ils font des ouvertures pour que ça puisse s'évacuer sur les étangs.
Alors, donc là, dans la lutte que vous menez contre les inondations, qui sont donc essentiellement liées aux fleuves, alors, c'est la capacité de rétention des étangs, surtout,
qu'il
faut travailler. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour, justement?
Mais la capacité des étangs, elle a quand même une certaine importance, parce que si on compte les étangs avec leur marée et les endroits où il y a les sans-souillures et tout ça, on est à 2000 hectares les 4 étangs palavasiens, mais on peut passer à 6000 hectares si on compte tout ça. Donc si on s'en sert comme de vastes retenues d'eau, ça a une capacité importante.
Mais il faudrait peut-être les travailler alors un peu.
Mais ce qu'il faut, c'est mettre des portes sur les gros pour faire qu'ils se remplissent moins vite par la mer, que quand la crue elle descend des Cévennes, eh bien, on puisse l'accueillir dans les étangs, qui ne sont pas déjà remplis par la mer.
Là, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'au moment où se passait cette crue cévenole, très souvent, on avait en même temps une tempête.
Ça commence souvent par une tempête à la mer.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous appelez une tempête à la mer,
Ben, disons, c'est quand la mer souffle à au moins 80 à l'heure, si ce n'est pas 100 ou 120 ou 110. Voilà, donc il y a des vagues, il y a des grosses vagues, et donc il y a une tempête.
Donc on a des vents terribles.
Terribles, peut-être pas terribles, mais qui sont forts, quoi, qui sont violents. Et donc, la mer, elle envahit les étangs. D'ailleurs, la mer arrive à envahir les étangs simplement sans qu'il y ait de tempête. Hein. Il suffit que la tempête soit au large et sur le littoral, il fait beau, vous n'avez pas de tempête. Hein, et toute la nuit, l'eau va rentrer, elle remplit les étangs, le lendemain matin, tout est plein. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé avec le beau temps qu'il y avait? Parce que le mauvais temps est passé au large en mer. Donc, comme les étangs communiquent avec la mer par les canaux, par les canalettes, hein, et donc ça se remplit très vite. Et c'est ce qui fait leur vie. Parce qu'il y a l'alevinage qui se fait à notre période, et ainsi de suite.
Alors, là on a... c'est quelque chose que les estivants connaissent mal, parce qu'en fait, ça apparaît ça, à l'automne, essentiellement.
Ah oui. Et les épisodes de Cévenol, c'est l'automne. Bon, ça peut mordre sur l'hiver, mais enfin, c'est essentiellement l'automne, comme vous dites.
Oui, alors quand on dit aux gens qu'il y a des tempêtes en Méditerranée ou qu'il y a des inondations, ils ont du mal à le croire.
Oui, bien sûr, parce que tout l'été, c'est calme plat.
Voilà. Alors, donc, vous parlez du moment où il y a cette tempête et vous faites des propositions pour faire en sorte que la mer ne rentre pas, ne vienne pas prendre la place de l'eau dans les étangs pour que les fleuves puissent avoir le temps de s'épandre.
Voilà,
c'est
voilà,
ça,
de s'étaler. Hein, il faut que la crue s'étale. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous proposez donc pour retarder justement cette mer hein?
mais ce qu'on propose, c'est des portes sur les gros. Alors quand on nous dit que les portes ça sert à rien, que ça coûte trop cher, que ceci, que cela, déjà à l'époque il y en avait des portes, hein. Il y avait des portes sur le gros de Carnon qui ne fonctionnent plus, ils n'y sont plus, il y avait des portes aux quatre canaux, on les a enlevées aussi, bon, mais vous voyez bien
c'était
que...
C'était comme des écluses alors.
Voilà, vous voyez bien que sur la lagune de Venise par exemple, eh bien, que l'Europe subventionne sur trois gros énormes, parce que là c'est énorme, c'est pas des gros comme chez nous, ils subventionnent trois portes hein, pour protéger Venise de la mer, des inondations. Donc... s'ils font ces investissements, c'est bien que ça a un sens. Vous avez Londres, il y a 4 siècles que Londres a mis des portes sur la Tamise pour éviter que Londres s'inonde. Et depuis, il s'inonde plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a 4 siècles qu'il y a ces portes. Les Américains, ils sont en train d'étudier de mettre des portes pour protéger New York dans le futur. Donc vous voyez bien, c'est...
Et alors, quand vous demandez ces portes, qu'est-ce qu'on vous répond?
Ben, on nous répond que ça ne servirait à rien, premièrement.
Et donc là-dessus vous pouvez prouver que ce n'est pas vrai.
Ben oui, mais prouvez, vous avez des scientifiques qui sont du côté des assemblées territoriales, qui vous défendent la même chose, hein, et vous remontez la pente comment. Voilà, c'est pas facile. Et après, on nous explique qu'il n'y a pas de retour sur investissement. On fait toujours comme si Palavas, ce n'était pas urbanisé. Mais Palavas, si vous voyez, il y a une activité qui est intense. Il y a le tourisme qui est fort sur Palavas. Il y a de nombreux commerces. L'été, il y a plus de 200 commerces à Palavas. Il y a 250 commerces. Bon, et l'hiver, il y en a au moins 150. Il y a l'hôpital. Bon, il y a la pêche que vous connaissez. Il y a le casino. Toutes les activités d'été. Et le nombre de foyers fiscaux, il est supérieur à celui des habitants à l'année. On a 2000 foyers fiscaux de plus que le nombre d'habitants à l'année. À l'année, on est 6000, hein, mais le nombre de foyers fiscaux, il est pratiquement à 8000.
Donc c'est tout ce qu'on appelle les secondaires, quoi. C'est ceux qui viennent pendant l'été.
Donc ce qui fait, tout ça fait que Palavas a un budget municipal, bon, il est en 4 morceaux, mais il a un budget municipal qui est supérieur à celui des communes voisines et qui sont pourtant plus peuplées que nous.
Bon, alors donc là, on vous répond, ben non, on n'a pas assez d'argent, donc on ne peut pas le faire. Alors, vous avez un deuxième problème auquel vous êtes... Donc là, ouais. Ce problème des inondations, vous l'avez conduit longuement au sein de l'ASPRI. Puis ensuite, il y a eu un deuxième problème que vous avez pris en charge, hein, qui est celui de l'émissaire de Maera. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émissaire de Maera, ce sont les eaux usées de Montpellier essentiellement, et que on vous a répondu parce que vous avez demandé ces eaux usées. Pour l'instant, elles se répandent dans la mer. Enfin, quand ça va. Pour le mieux, mais parfois...
Non, mais elles sont traitées. Maera, c'est la station d'épuration de la métropole. Donc c'est traité. Nous, ce qu'on demande, c'est que on fasse davantage de bassins d'orage. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on a un réseau qui n'est pas unitaire sur Montpellier, parce que Montpellier est ancien, forcément. Et donc, les eaux de pluie arrivent mélangées avec les eaux de usées.
Comme à Paris.
Voilà. Donc, quand ça arrive sur la station d'épuration, ça, et que c'est trop important parce qu'il a plu, eh bien, on appelle le bypass, c'est-à-dire qu'on rejette dans le Lesse sans l'avoir traité, parce qu'il y a trop d'eau qui arrive. Par contre, si on a davantage de bassins d'orage, on les garde davantage avant de les rejeter. Et à ce moment-là, on arrive qu'on a dans la rivière un niveau de dilution qui est supérieur.
Alors donc, on a des solutions alors ?
Parce que, et oui, on pourrait avoir des solutions si on veut. Parce que là, le plus dangereux, ce n'est pas les grosses crues. Les grosses crues, la dilution est telle que la pollution, elle est pas dangereuse. Mais quand on a des petites crues qui interviennent au printemps et en été, et c'est là qu'on a le plus de tourisme, eh bien, ces petites crues, elles amènent cette pollution qui n'est pas diluée.
Alors,
et c'est là que si on a des bassins d'orage plus importants, on a davantage le temps de les traiter, et puis quand on les relâche à l'Eleize, la dilution est plus importante.
Alors, pour ça, vous avez écrit au président de la métropole de Montpellier,
oui, oui.
Et vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il allait faire et qu'est-ce qu'il pensait faire concernant cet émissaire. Et on vous a répondu que rien n'était prévu avant 2027. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse ?
Ben, c'est le temps pour faire les travaux. Quand vous prenez du retard au départ, après, il est difficile d'arriver à l'heure. C'est un peu mon cas aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, on est sur une grande échelle, là. Donc, ces travaux ont pris du retard au départ et après, il faut l'assumer à la fin.
Mais 2027, c'est longtemps quand même.
Voilà, mais c'est pour ça qu'il nous faudrait pour l'été, pour le printemps et l'été, il nous faudrait sur l'Eleize des barrages anti-pollution avec des filets. Et une pelle mécanique sur une barge qui de temps en temps enlèverait les matières qui sont en suspension, qui sont retenues. Il ne faut pas que tout ça descende à la plage, à la mer, dans les étangs et tout ça. Quand il y a ces petites crues qui sont très dangereuses en définitive.
Donc en fait, ce que l'ASPRI demande, si j'ai bien compris, c'est presque une gestion quasi permanente, aussi bien des étangs que des écluses, que de la pollution. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à attendre la catastrophe pour réagir. On pourrait faire ça d'une manière plus douce et plus permanente.
Comme ça existe à certains endroits. Dans les Pays-Bas, il y a longtemps qu'ils agissent de la sorte... Voilà, tandis que là, nous, ils considèrent que le littoral, il n'est pas habité, et que quand ça arrive chez nous, à partir du moment qu'il y a les étangs, et puis il y a la mer derrière, et donc tout ça se débrouille tout seul, quoi. La nature fait le reste. Mais le problème, c'est que le littoral, il est habité, et que ça ne se passe pas comme ça, et puis on a accru le risque. Avec une urbanisation d'amont qui est très importante, on a accru le risque qui existait déjà, bien entendu. Le risque, il est naturel. Mais il a été aggravé par ce qu'on a fait. Alors on nous dit, mais non, on a fait des travaux pour vous protéger. Mais non, cette eau, elle n'est plus dans l'Eleize, elle va dans les étangs. Et c'est les étangs qui débordent, c'est plus l'Eleize. Donc on n'a pas réglé le problème. Ce qu'il faut, c'est retarder le remplissage des étangs par la mer pour que les crues puissent s'étaler.
Vous expliquez même que parfois... Il y a des contraintes qui ont été mises pour construire de nouvelles habitations. On a contraint les nouvelles habitations à avoir des bassins de rétention, mais vous estimez que ces bassins de rétention, finalement, c'est un peu peanuts, quoi. C'est pas sérieux.
Vous parlez des bassins de rétention ?
Pour les immeubles, qu'on impose maintenant aux immeubles.
Oui, alors ce qui se passe, vous faites bien de parler de ça, c'est quand même... ça existe, c'est... Donc, c'est des bassins de rétention qui sont faits pour retenir 100 mm de pluie par mètre carré. Voilà. Donc, quand on a des grosses pluies, on a 300 mm. Donc, vous avez tout le reste qui continue de descendre. Et puis, vous savez, dans les projets, on marque un certain nombre de bassins de rétention là où on va urbaniser, qu'on va continuer à urbaniser. Et puis après, à l'arrivée, quand c'est fini, il y en a un peu moins. Il y en a moins que ce qui était prévu au départ.
Et alors, vous m'aviez expliqué, même quand on a préparé cette émission, que les anciens de Palavas avaient ce qu'on appelle des bâtards d'eau. Alors, ça permettait finalement de lutter contre les petites inondations.
Ah, mais le système des bâtards d'eau, c'est ce que nous propose le programme L'Eleize à l'abri. Donc, avec le CIBLE, le syndicat du bassin du L'Eleize, et puis l'agglo de l'étang de l'Or. Palavas est la commune la plus exposée. Il n'y a pas de protection collective de prévu. Il n'y a qu'une protection individuelle qui est justement ce que vous parlez, c'est-à-dire les bâtards d'eau. Moi, j'en ai fait.
C'est-à-dire, c'est des petites planches qu'on met devant
ça. Ça fait un mètre de haut et qu'on met devant les portes pour pas que l'eau rentre dans les maisons. Voilà. Mais ça, c'est un cas, bien sûr, de crue importante. Et c'est pour ça que c'est important, parce que nous, avec ce qu'on propose, si on a une crue de 50 cm, à la place d'avoir une crue de 1,50 m, c'est pas pareil. Parce que comme vous dites, avec les bâtards d'eau, 50 cm, on s'en sort comme qui rigole. Hein. Si on a 1,50 m, on ne s'en sort plus parce que ça passe par-dessus les bâtards d'eau. Ils font comme mètre.
Donc là, on a un vrai problème.
Il y a un arrêté préfectoral qui, pour les rôles, détermine les bâtards d'eau à 1 mètre, ce qui est pas mal parce que tout le monde n'a pas 1 mètre.
Alors, après, on a vu, il y a eu les étangs, les problèmes d'inondation, etc. Et puis, vous êtes quand même aussi intéressé au problème de la plage et de la manière dont on a rangé cette plage, parce qu'il fallait aussi, il y avait bien sûr les portes que vous proposez, mais il y avait aussi à équiper les plages pour retenir les vagues.
Tout à fait. Le front de mer, il faut protéger le front de mer.
Alors, les épis, il y a beaucoup d'épis à Palavas.
Oui, il y a beaucoup d'épis.
C'est suffisant ou pas ?
Non, il faut mettre des brise-houles qui sont sous le niveau de la mer, qui en définitive cassent les vagues et surtout retiennent le sable. Parce qu'avec l'or et sac, quand il y a des vagues, ça prend le sable de la plage et ça l'emporte au large et donc ça dégraisse les plages. Tandis que si on a des brise-houles sous l'eau, ça empêche le sable de partir au large. Donc il s'établit entre le brise-houle, pas très éloigné du bord de mer, 300 mètres, un truc comme ça, 400 mètres, et la plage. Et donc, quand après le temps change et qu'il fait beau, ça réensable la plage, parce qu'il n'est pas parti au large, il est resté au bord. Ça existe entre Sète et Agde.
Le géoflix, l'espèce de boudin.
Voilà, et à Palavas, il y a une étude qui est faite par la municipalité avec les scientifiques, qui est financé par la région.
Mais alors, le maire dit que finalement, c'est assez fragile parce que les bateaux arrachent le boudin en plastique et que ça ne sert à rien. Et alors, bon.
Non, mais ils ont trouvé un système en drague des 7. Hein. C'est vrai que le problème, il existe. Hein. Mais ils ont mis des câbles avec de l'électricité et ça fait des concrétions du fait qu'il y a de l'électricité qui pousse sur les boudins de géotextile. Et ça fait que quand un bateau il passe dessus, il tape dans les concrétions et ça protège le géotextile qui est dessous. J'ai vu ça à la télévision.
D'accord. Donc, on peut aménager le système.
On peut le faire, mais nous, à Palavas, ils sont en train d'étudier, les scientifiques, un autre système
Alors,
de protection.
Ils étudient un système de récif artificiel.
Voilà.
Alors, mais avec la même volonté, c'est-à-dire de casser la vague assez loin du bord pour qu'elle arrive avec moins de force.
Et empêcher le sable de repartir.
Alors, les récifs artificiels, ça a été testé à Agde, déjà.
Oui.
Et vous pensez que c'est bien ?
Non, mais c'est pas la même. Les récifs artificiels, nous, on en a en mer aussi, au large, pour les poissons, c'est autre chose, ça. Là c'est le rôle peut être les deux. Peut servir pour les poissons, mais essentiellement, c'est pour protéger la plage. Donc, c'est pas très éloigné du bord, là, dans ce cas-là. C'est à 300-400 mètres du bord. Et donc, c'est fait, comme vous dites, pour casser la houle, mais aussi pour retenir le sable entre ces épis qui longent la plage et le bord de la plage.
Alors, ça a un triple rôle, en fait. C'est-à-dire, ça casse la vague, ça protège le sable, et ça permet le retour de la biodiversité. En fait, c'est là-dessus beaucoup que les scientifiques insistent aussi. C'est-à-dire que, finalement, ce qui se passait... Enfin, on a commencé par la question de la pêche, mais parce que c'est quand même très relié. Mais ce qui se passait en termes d'échange de biodiversité entre les étangs et la mer se passe moins. Et il faut repeupler un peu la mer.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais les récifs artificiels, c'est une excellente chose. Partout où il y a des récifs, c'est bien. Il faut, ça protège les alevins et tout ça. Il faut aller dans ce sens-là. Mais là, on est sur quelque chose qui est entre les deux qui sert pour la plage. Le rôle premier, c'est la plage. Mais ça sert aussi pour le poisson. Mais le rôle premier, c'est de protéger la plage.
Alors, vous avez demandé, par rapport à comment tous ceux qu'on vient d'évoquer, vous avez écrit à la présidente de la région, Carole Delga, parce que vous écrivez beaucoup au Parlement européen, voilà. Et à votre dernier AG, vous avez demandé donc la saisie de la nouvelle gouvernance unifiée du littoral. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous en attendez ?
Mais nous, on pense que c'est une bonne chose parce que c'est le millefeuille. Notre littoral, nos étangs, la mer, etc., pour beaucoup de scientifiques, c'est une entité, quoi. Sur le golfe du Lion, par exemple, c'est une entité commune. Et on a une multitude de collectivités territoriales. Et alors, il faut mettre tout ça en harmonie. Et donc, comme vous dites, la gouvernance, c'est un moyen de mettre tout ça en harmonie. Donc, c'est une excellente chose. Après, il faut voir le contenu qu'on y met dedans et tout ça. Nous, on demande qu'il y ait une étude globale sur le golfe d'Aigues-Mortes, hein, qui étudie le trait de côte pour sa protection, mais ça implique, hein, qu'on évalue tout le sédiment qui descend de l'amont, qui comble les étangs, qui comble les canaux, les canalettes, hein, et qui vient en mer, parce que c'est aussi dépendant la mer, de le trait de côte, de tous ceux qui descendent en haut. Et donc, c'est très important. Il faudrait le quantifier à un moment donné, savoir exactement d'où ça vient et la quantité qu'il y a, et puis comment on fait pour essayer d'arranger les choses au mieux.
Donc là, vous demandez un plan global, oui, sur ça, mais oui, en même temps, vous l'étendez sur la dimension financière. Parce que vous pensez que des tas de petites opérations financées, finalement, on pourrait faire mieux.
Ah, mais de toute façon, quand on fait comme on parle là, forcément, il y a des choses qui se font en double, si ce n'est pas en triple. Hein, et puis, il y a des choses qu'il faudrait faire et qu'on n'a pas les sous pour faire. Tandis que quand on a une gouvernance globale, c'est quand même mieux de mettre tout le monde d'accord, d'en discuter ensemble et ainsi de suite. Là, il n'y a pas photo, quoi.
Alors, une des devises de l'esprit, puisqu'on va bientôt conclure notre échange, une de vos devises, c'est « l'esprit ne se contente pas de déplorer, elle propose ». Donc, malgré tous les problèmes, oui, qu'on vient de voir, votre association a toujours des propositions à faire.
Voilà.
Mais alors, est-ce que vous recevez des réponses? Parce que souvent, vous proposez effectivement des choses.
Oui.
Est-ce que vous recevez des réponses qui vous satisfassent? Est-ce que vous avez une démarche citoyenne qui vous comble aujourd'hui?
Non, mais... on a déjà été reçu, il y a une étude pour la protection de Palavas que ça ne se faisait pas. Bon, c'est déjà une chose, cette étude. Bon. Ensuite, on a demandé pendant 2 ans d'avoir les résultats de cette étude, d'être reçu. Ça a été fait le 14 février à l'agglo du Pays de l'Or. Donc, on avance là-dessus. Bon, après, il y a tout un tas d'aspects qu'on considère qui sont négatifs. Bon, et dans les aspects positifs, on nous a répondu qu'ils étaient d'accord pour continuer d'avoir une réflexion sur des portes sur les gros, pour voir ce que ça pouvait donner, bien qu'ils pensent que c'est une vraie bonne fausse idée. Mais enfin, ils sont d'accord pour continuer d'avoir une réflexion là-dessus. Parce que nous, de notre vécu, de notre expérience qu'on a, on sait très bien que quand il y a des portes et quand il n'y en a pas, c'est pas du tout pareil, contrairement à ce qu'on nous explique. Parce que ça, nous, on l'a vécu. J'ai été pêcheur pendant 40 ans, je peux discuter de ça. Justement, il faut croiser le savoir des scientifiques, le nôtre, les élus, etc. Et pas qu'un seul sonne de cloche. Les pêcheurs n'ont pas raison tout seuls de leur côté, ou les habitants de Palavas, et puis les autres, ils n'ont pas raison. Voilà, il faut qu'on apprenne, hein, à croiser les savoirs et à échanger. Je crois que là, on a de gros efforts à faire.
Alors,
et donc on travaille, on pousse la roue pour ça, quoi.
Alors, donc, vous venez tous d'entendre...
Il y a la protection des quartiers, je m'excuse, mais il y a la protection des quartiers. La protection des quartiers avec l'endiguement pour faire qu'ils ne soient pas inondés quand la mer monte, quoi.
Et là, vous avez proposé un endiguement qui est finalement plus coûteux.
Mais on propose ça, mais on nous répond qu'il faut le faire en dur, et donc ça coûte très cher, la commission des sites ne l'acceptera pas, et donc ça devient irréalisable. Voilà, donc on part d'une situation où c'est faisable, à une situation où ça devient réalisable. On fait avec ça comme on fait avec tout le reste.
D'accord. Alors,
il faut faire évoluer les choses. Hein.
Donc, on voit que l'esprit fait énormément de propositions. Je vous rappelle donc à nos auditeurs l'adresse de l'esprit, 31 rue de l'Emparos, 34 250 Palavas. Et vous pouvez adhérer pour soutenir les travaux de l'esprit et vous vous adressez donc à Jean-Pierre Moll, qui était notre invité aujourd'hui. Merci Jean-Pierre.
Merci à vous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.